Laudetur Jesus Christus.
La foi chrétienne n'est pas une dévotion inoffensive qui ne dérange aucun puissant. Elle doit générer des engagements concrets dans la charité. Fort message du pape François lancé hier à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres. Un revirement stratégique d'ampleur à la veille du 1000e jour de guerre en Ukraine. L'administration américaine de Joe Biden autorise Kiev à utiliser des missiles de longue portée en Russie. Nous irons à New York. La guerre en Ukraine, à Gaza, au Liban, mais aussi le climat et les tensions commerciales. Autant de sujets qui vont animer les discussion tendue des 20 premières économies mondiales réunies ces lundi et mardi au sommet du G20 à Rio. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a visé plus de 200 cibles en 36 heures. Au Liban, 60 personnes mortes hier à Gaza. Des pertes humaines chaque jour plus importantes dans ces frappes qui endommagent aussi le patrimoine archéologique plurimillénaire de Terre Sainte. Nous verrons de quelle façon dans notre dossier.
Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
Bonjour. La société idolâtre l'argent et les plus pauvres ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Appel du pape à la mobilisation caritative plus concrète hier dans son homélie lors de la messe pour la 8e journée mondiale des pauvres en la basilique Saint-Pierre. Avant de déjeuner avec 1300 personnes démunies au Vatican, l'évêque de Rome a interpellé les 5000 fidèles venus l'écouter sur l'indifférence et le souci accordé aux vulnérables. Myriam Santuno.
In realtà si diventa chiesa di Gesù nella misura in cui serviamo i poveri.
On devient église de Jésus dans la mesure où nous servons les pauvres, car ce n'est qu'ainsi que l'église devient elle-même une maison ouverte à tous, lieu de compassion de Dieu pour la vie, disait le cardinal Martini. Reprenant ses propos, le pape a expliqué que de notre foi au Christ qui s'est fait pauvre, découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. François a insisté sur la compassion que l'on doit avoir envers les pauvres. Il ne s'agit pas de jeter une pièce dans la main de celui qui est dans le besoin, mais de se faire plus proche par un toucher, le regardant dans les yeux avec un sourire. S'adressant également à l'Église, au gouvernement et aux organisations internationales, il a invité à porter un regard sur les pauvres.
Per favore, non dimentichiamoci dei poveri.
Il revient aux chrétiens en communion avec l'Esprit Saint de semer l'espérance, la justice et la solidarité dans un monde marqué par les horreurs de la guerre et même dans la souffrance, a dit François. La présence de l'amour de Dieu qui se fait proche ne nous abandonne pas. Il agit pour notre salut.
La présence dell'amore di Dio che agisce per la nostra salvezza.
Myriam Sandouno, après la prière de l'Angélus, François, une pensée pour les personnes qui demandent la paix, les réfugiés sans toit à cause de nombreuses guerres. Les gouvernements doivent écouter le cri des peuples qui réclament la paix, a-t-il lancé. Et pour la première fois, le pape François a évoqué les accusations de génocide à Gaza dans un livre publié demain en Italie dont des extraits sont parus hier dans le quotidien La Stampa. François appelle à une enquête attentive sur la caractérisation de génocide. Il faut, dit-il, déterminer si la situation correspond à la définition technique formulée par les juristes et les organismes internationaux. Le rapport d'un comité de l'ONU doit être présenté ce lundi à New York, estimant que les méthodes israéliennes correspondent bien à ces caractéristiques, des conclusions condamnées par les États-Unis et l'État hébreu. Veille du 1000e jour de guerre en Ukraine, lendemain de frappes russes massives contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, 120 missiles, 90 drones sur plusieurs régions du pays. Des restrictions d'électricité seront donc appliquées en conséquence aujourd'hui en Ukraine. Le pays Kiev, finalement autorisé par les États-Unis, a utilisé des missiles longue portée américains pour viser la Russie sur son propre territoire. Un revirement stratégique d'ampleur de la part de Washington à l'égard de Kiev, dont c'était la demande depuis longtemps. Ces missiles devraient servir dans un premier temps à protéger la région russe de Koursk, tenue par Kiev. À New York, Loïc Loury.
L'arrivée en Russie de 10 000 soldats nord-coréens venus aider Moscou à reprendre la région de Koursk, c'est cela qui aurait finalement décidé Washington à donner son feu vert à l'Ukraine. Après des mois de débats avec ses conseillers, Joe Biden autorise Kiev à frapper la Russie sur son propre territoire avec les missiles ATACMS d'une portée de 300 km déjà fournis par les Américains. Une rupture stratégique majeure de la part du démocrate, même si le cours de la guerre ne devrait pas en être bouleversé, tempère des responsables. Objectif, dans un premier temps, permettre à Kiev de défendre la région de Koursk conquise cet été et mettre en garde la Corée du Nord. Ses soldats seront menacés s'ils opèrent sur le sol russe. Joe Biden tente aussi peut-être de mettre Kiev dans la meilleure position possible en cas d'éventuelle négociation forcée avec Vladimir Poutine. Dans 2 mois, c'est en effet Donald Trump qui prendra sa place dans le bureau ovale et le milliardaire compte bien couper les livraisons d'armes à l'Ukraine. New York, le Éclairé, Radio Vatican.
Les dirigeants des principales économies mondiales réunis ce lundi à Rio, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, y retrouvera les présidents américains et chinois. Un sommet sous forte pression entre besoin d'un compromis sur le climat, l'accord de libre-échange avec le Mercosur ou les divergences criantes sur l'Ukraine et le Proche-Orient avant le retour de Donald Trump à Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
Lula, l'hôte du sommet, voulait profiter du G20 pour briller sur la scène internationale et porter des enjeux globaux comme une taxe sur les super-riches ou la lutte contre la faim et contre le changement climatique. Mais alors que Joe Biden vient y faire ses adieux internationaux, c'est l'ombre de Donald Trump qui va planer sur ce G20. Les tensions mondiales sont de plus en plus exacerbées et l'incertitude autour de sa future politique rend le climat électrique. La guerre en Ukraine devrait s'inviter dans les discussions alors que Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crime de guerre, n'est pas présent sur place. Le retour de Trump peut être synonyme d'augmentation des droits de douane et pour Lula comme pour ses invités, cela peut représenter un coup dur économique. Dans ces conditions, le président chinois espère convaincre, en marge du sommet, le Brésil pourrait signer de nombreux accords sur des secteurs clés. Xi Jinping doit d'ailleurs se rendre à Brasilia juste après le G20. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
Référendum sur la Constitution au Gabon, victoire massive du oui selon les résultats provisoires. 91% des Gabonais ont validé le texte rédigé par le régime militaire, présenté comme un tournant majeur pour le pays après la chute de la dynastie Bongo. Le dirigeant du pays le plus peuplé du monde dans l'état le plus peuplé d'Afrique, cela faisait près de 20 ans qu'un dirigeant indien ne s'était pas rendu au Nigeria. Ce dimanche, Narendra Modi est venu renforcer un partenariat stratégique concurrencé par la Chine dans la région. 200 entreprises indiennes ont investi 27 milliards de dollars dans l'industrie manufacturière au Nigeria. New Delhi suffoque la majorité des classes de la capitale indienne fermée ce lundi en raison d'une pollution atmosphérique 60 fois supérieure aux normes maximales de l'OMS. Pas la pollution, mais la guerre fait fermer les écoles de Beyrouth ce lundi et mardi à cause de raids israéliens. Alors que 60 nouveaux civils sont morts dans les frappes hier à Gaza, au moins 20 ont été tués au Liban. Parmi eux figure le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, et 2 militaires libanais dont la position au sud du Liban a été touchée de plein fouet par une frappe israélienne. Beyrouth, Paul Khalifé.
Israël a procédé dimanche à une vaste escalade en attaquant Beyrouth, sa banlieue sud et des dizaines de localités, surtout dans le sud du pays. Pour la seconde fois depuis le début de la guerre ouverte avec le Hezbollah le 23 septembre, l'aviation israélienne a mené 2 raids en plein cœur de la capitale. Le premier a tué le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, alors qu'il se trouvait au QG du parti Baas, à moins 1 kilomètre de l'ambassade de France. La deuxième frappe a visé le quartier résidentiel de Sainte-Élie, à l'ouest de Beyrouth, habité par des sunnites, des chiites et des chrétiens. Israël affirme que la cible était un haut responsable du Hezbollah, qui n'a fait pour sa part aucune annonce sur ce bombardement. Les avions israéliens ont enchaîné dimanche les raids sur la banlieue sud de Beyrouth, devenue depuis 4 jours une cible quotidienne. Les destructions dans cette région sont considérables, avec des quartiers entiers transformés en tas de ruines. L'aviation a aussi bombardé des dizaines de localités dans le sud du Liban, où l'armée israélienne accentue sa pression au sol pour tenter d'occuper la bourgade stratégique de Khiam à l'extrême sud-est du Liban. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Après 100 députés, 12 000 avocats, maintenant 300 professionnels de la culture, les Libanais et leur diaspora mobilisés pour protéger leur patrimoine. Les sites antiques et bibliques de Tyr et Baalbek menacés seront au cœur de la session extraordinaire tenue par l'UNESCO cet après-midi à Paris. Objectif, obtenir une protection renforcée des sites archéologiques. L'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO en sera. Autre endroit de Terre Sainte en péril, les pierres de Gaza, bien sûr détruites et menacées depuis plus d'un an. Construites sur du sable en quasi-totalité, l'enclave palestinienne a subi des destructions massives, également patrimoniales, dans les frappes israéliennes. Selon l'UNESCO, 50 sites culturels, dont 28 bâtiments d'intérêt historique et artistique, 4 monuments, autant de sites archéologiques et un musée ont subi des dommages. Au cœur de l'été, le monastère Saint-Hilarion de Gaza a été ajouté à la liste du patrimoine en péril. Présent dans l'enclave depuis 1999, l'archéologue français René Elter dirige le programme de recherche de ce monastère. Chercheur associé à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, il coordonne scientifiquement le programme INTICAL pour l'ONG Première Urgence Internationale. Ce programme protège et valorise le patrimoine plurimillénaire gazaoui par de jeunes Palestiniens eux-mêmes. Des hommes derrière des pierres et peut-être la seule lueur d'espérance au milieu des décombres. René Elter témoigne d'abord de toute la difficulté à protéger les sites archéologiques pendant les conflits.
Travailler dans un contexte comme celui de Gaza, pour pouvoir en fait perdurer, il faut avoir énormément de souplesse, beaucoup aussi d'humilité. Ça veut dire on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a le moment venu. Et ensuite, ce qui est important, c'est aussi, au-delà des pierres, ce sont les hommes et les femmes qui tous les jours prennent soin de ce patrimoine. Et c'était toute l'idée de ce programme INTICAL que nous avons mis en place avec Première Urgence Internationale. INTICAL en arabe veut dire transmission.
Comment justement êtes-vous passé des pierres aux hommes, de quelle manière s'opère cette transmission ?
À une équipe de jeunes, des étudiants formés en archéologie et en architecture. Ils sont une trentaine. Et l'idée, justement, c'était de pouvoir les professionnaliser et leur permettre d'accéder à ces différents métiers du patrimoine. Donc on est passé, en fait, de ce programme archéologique à aujourd'hui une aventure humaine. Ces jeunes doivent faire partie, justement, du noyau de cette société, en fait, qui va devoir reprendre en charge Gaza et construire positivement, en fait, une société d'avenir. On s'était donné comme objectif 2030 pour pouvoir leur permettre justement de devenir des professionnels, mais pas seulement, également des scientifiques. Et par exemple, avec l'Agence française de développement, on a mis en place un programme d'initiation aux Français. Dans ce projet, nous avons embarqué le Musée du Louvre et l'Institut national du patrimoine. Les monuments, on peut toujours les restituer, les restaurer. Alors c'est vrai, c'est un crève-cœur de voir un très beau bâtiment détruit. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est cette équipe. Et pour moi, le monument le plus important et intéressant de la bande de Gaza, ce sont eux. Ce sont ces garçons et ces filles qui, eux, sont le futur et l'avenir du patrimoine et de l'archéologie de Gaza. On a réussi à avoir le soutien de nos bailleurs de fonds, l'Agence française de développement et le British Council, pour pouvoir permettre à ces jeunes de conserver leur salaire tout au long de ce conflit. Et aujourd'hui, on est en train de construire un projet qui, à partir du moment où on aura un cessez-le-feu permanent, permettra au moins pendant 36 mois de pouvoir mener à bien ces évaluations et ces mises en sécurisation de ces différents sites et monuments. 3 ans, c'est réaliste. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir avoir des matériaux le lendemain du cessez-le-feu. On ne va pas être prioritaire. L'éducation, les hôpitaux, et toute la partie humanitaire, réhéberger des gens va être beaucoup plus important.
L'aspect humanitaire est bien sûr prioritaire, mais quelle est toutefois l'importance existentielle et civilisationnelle aussi à protéger le patrimoine lors des conflits ?
On pourrait s'imaginer que s'occuper d'archéologie, de bâtiments détruits dans un contexte humanitaire hyper tendu comme celui de Gaza, et surtout comme on va dire qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début justement de cette crise humanitaire à Gaza, parce que même si un cessez-le-feu demain, tout va être à faire. Le patrimoine et la culture, en fait, font partie intégrante de la structuration citoyenne d'une société, et on ne peut pas le négliger. On ne peut pas le négliger parce que si on se dit, par exemple, je prends le cas du monastère Saint-Hilarion, le monastère Saint-Hilarion n'est pas important, ça veut dire que dans 10 ans, on l'aura perdu. C'est-à-dire que la végétation aura envahi les vestiges, les pluies des différents hivers auront ravagé les vestiges, érodé les sols, déchaussé les pavements de mosaïques, et ces sites vont disparaître. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la mémoire de Gaza va également disparaître. Avant le 7 octobre, on avait à peu près 1 millier de visiteurs par mois sur le site, et en grande partie des enfants des écoles. Et ce sont 2 jeunes musulmans qui expliquaient à des petits musulmans qu'est-ce qu'une église, qu'est-ce qu'un baptistère, quel est le rite du baptême au 5e siècle à Gaza, qui est Saint-Hilarion, qu'est-ce qu'un monastère. Cette transmission, vous voyez, elle se fait pas seulement dans les pierres et dans l'archéologie, elle se fait d'une manière générale. Pour eux, la religion n'est pas un problème. C'est-à-dire que pour eux, ce qui est le plus important, c'est sauver ce patrimoine pour pouvoir le mettre en valeur.
L'archéologue français René Elter, chercheur associé à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute et fidélité aux ondes de Radio Vatican. Nouvelle édition à 13h, heure de Rome. Belle journée.